Et soyez les bienvenus à l'un de vos rendez-vous du dimanche matin, Tendance Confidence, 8h30-9h, diffusé sur la première radio régionale en Normandie, Tendance Ouest, au cœur de la vie d'un diocèse et aussi au cœur de la vie d'une province ecclésiastique, avec son archevêque qui est à Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, bonjour.
Bonjour à tous les Normands.
Vous êtes né en 1957 dans cette ville de Rouen et vous êtes titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et vous entrez en 1978 au séminaire français de Rome. Puis vous poursuivez vos études à l'Institut catholique de Paris, ordonné prêtre en 1984 et évêque pour le diocèse de Saint-Étienne en 2006. Et vous êtes nommé archevêque de Rouen pour cette région Normandie le 10 juillet 2015. Quelques mots peut-être pour nous présenter cette province et ses différents diocèses.
Alors s'il y a 5 départements, il y a 6 diocèses, donc Coutances et Avranches hein, pour la Manche, le diocèse de Bailleul-Lisieux pour le Calvados, nous avons aussi le diocèse de C pour l'Orne, voilà, c'est une ville qui est moins connue peut-être qu'Alençon, mais c'est le siège du diocèse, le diocèse d'Évreux pour l'Eure, et en Seine-Maritime, le diocèse du Havre et l'archidiocèse de Rouen.
Comment ne pas confondre unité et uniformité, y compris en Église, lorsque l'on est aussi, comme vous, lorsqu'on est aussi ministre de communion?
Une paroisse du pays de Caux, c'est pas pareil qu'une paroisse du pays de Bray, ou bien des boucles de la Seine. Et ça me fait beaucoup réfléchir, parce que ça fait 50 ans qu'on mange la même télévision, qu'on a à peu près les mêmes jeans, qu'on a les mêmes propositions scolaires. Et puis, on voit qu'il y a une physionomie de l'Église locale particulière. Et donc ça veut dire que l'Église est au plus proche dans la proximité. Peut-être à la différence d'autres institutions françaises qui est très jacobine, hein, vous savez, les programmes de l'éducation nationale, c'est pour tout le monde. On doit faire la réforme du collège, c'est pour tout le monde pareil. Nous ne vivons pas les réformes de nos paroisses ou les réformes de notre pastorale de la même manière dans chaque diocèse. Et même à l'intérieur des diocèses de manière différente.
Qu'est-ce qui est différent de la société civile par rapport à l'Église, dans la façon de gérer?
Alors d'abord, c'est que pour nous, c'est essentiellement sur la gratuité que tout est fondé, c'est-à-dire la liberté, y compris au niveau financier. C'est quand même assez étonnant parce que nous avons une charge assez lourde qui sont entièrement assumées par des dons libres, j'ai envie de dire, de nos adhérents, pour prendre une expression du monde. Alors que une association dira bah, « la cotisation est obligatoire ». Même si nous faisons appel à la responsabilité, c'est-à-dire à la conscience de chaque croyant, de chaque catholique qui fait vivre de toutes les manières sa communauté.
Est-ce que ces différents dons qui sont faits à l'Église font naître aussi non seulement une certaine générosité, mais aussi un geste de solidarité?
Alors, je crois qu'il y a de la générosité et que les gens s'occupent des autres. Mais il y a une vraie question dans le type de transmission de la foi. Alors c'est un débat aujourd'hui entre la foi individuelle, si vous voulez. On voit bien qu'il y a des personnes qui disent « mais moi je veux croire de telle manière, je veux refonder une communauté, mais pas comme ceux des générations précédentes ». Et on voit bien que la transmission de génération en génération ne fonctionne pas très bien. Mais c'est vrai dans la société civile, c'est-à-dire que, par exemple pour le mariage, une jeune fille interroge beaucoup moins sa mère qu'avant. Elle vit ses expériences, elle décide par exemple de fonder une famille, aujourd'hui c'est autour de 30 ans, à qui elle demande? Elle demande à ses copines, elle demande à celle de sa génération, et ils se font une idée ensemble. Mais finalement, c'est le ressort peut-être de la fraternité.
En quoi consiste cette mission spécifique en tant qu'archevêque, si nous regardons par rapport à vos homologues qui sont évêques?
J'ai bien conscience que les évêques se succèdent dans leur tempérament et c'est pour moi, vous savez, au contraire, une profonde interrogation et une source d'humilité. Dans un diocèse, il n'y a qu'un évêque et les prêtres doivent le supporter, doivent faire avec, mais pas les prêtres seulement, les communautés aussi. Je sais que j'ai un tempérament, j'en ai pas deux. Et que peut-être certains préféraient avoir un évêque, disons, avec un tempérament plus secondaire que le mien. Après, je me dis, ben voilà, j'ai été choisi. Il faut éviter les excès, mais aussi vivons avec sérénité et joie le tempérament que le Seigneur m'a donné.
Comment prendre du temps avec les gens et en même temps prendre des décisions?
Moi, je compte beaucoup sur les conseils. Un évêque a à peu près 7-8 conseils à sa disposition. Un conseil pour les finances, un conseil pour la formation, un conseil pour la vie des consacrés religieux, religieuses de son diocèse, et puis un conseil épiscopal, c'est-à-dire qui se réunit quand même toutes les semaines. Il n'y a pas beaucoup d'institutions où voilà, le responsable va prendre 3 heures ou 4 heures par semaine avec des proches conseillers. Et donc, moi, je cherche à ce que toutes mes décisions soient des décisions qui soient prises en conseil.
Il y a de fait un conseil régulier, peut-être une fois par an, avec vos confrères de cette province église de Normandie, avec le diocèse de Bayeux, le diocèse de Coutances, le diocèse d'Évreux, le diocèse du Havre, le diocèse de C, et bien sûr vous, le diocèse de Rouen.
Alors, nous nous retrouvons 3 fois par an avec nos bras droits, c'est-à-dire ce qu'on appelle les vicaires généraux. Et nous nous retrouvons sur, en général, 1 ou 2 journées. Et puis, nous avons 2 autres rencontres, uniquement les évêques entre eux, à l'occasion des assemblées de tous les évêques de France à Lourdes, où nous prenons une soirée avec un repas aussi convivial. Donc ça fait finalement 5 rencontres assez longues ensemble. Mais ce n'est pas un conseil, parce que nous n'avons pas à prendre des décisions communes. Ou alors, on décide ensemble de faire une marche pour les vocations. Voilà, c'est pas un conseil, mais c'est plutôt des rencontres fraternelles.
Votre devise est un extrait de l'évangile de Saint Jean au chapitre 15, verset 15. Et cette devise, la voici, « Je vous appelle mes amis ». Quels sont vos critères pour accorder ou non votre confiance à quelqu'un ?
Vous avez raison de mettre la confiance avec l'amitié. Cette devise, elle est venue de mon expérience personnelle. Bien que je sois d'une famille nombreuse, je suis le 8e enfant d'une famille qui a toujours vécu à 7, puisque j'ai une grande sœur qui est décédée en bas âge, et qui compte beaucoup pour moi, mes frères et sœurs. Mais dans mon adolescence, dans ma jeunesse, et par la suite, les amis ont beaucoup, beaucoup compté. Vous savez, l'amour, on en parle beaucoup, mais l'amour de conjugal, c'est une chose, l'amour de frères et sœurs, c'est une autre. L'amour des parents, c'est encore une autre chose. L'amour d'amitié, qu'est-ce que c'est ? Un amour qui n'est tenu par rien d'autre. Parce que l'amour conjugal, il y a un pacte. Alors voilà, on décide, on prend une décision, et puis on la rend d'ailleurs publique. Alors pas forcément à la mairie, mais on va la dire à ses parents, maintenant on est ensemble. L'amour d'amitié, il n'y a pas de décision, ça ne se voit pas d'une certaine manière. Il n'y a pas des liens du sang. Il y a simplement, on se veut du bien. On se veut du bien, il y a une complicité. Alors, je ne mets plus de critères à l'amitié. Car ma devise, je vous appelle mes amis, c'est pour tout le monde. Donc, j'offre ma confiance à tous parce que j'ai confiance en tous. Peut-être que j'inspire pas confiance, ça c'est autre chose, c'est aux autres à le dire, et sans doute, à cause de mes péchés, à cause de ce que je fais de mal, et mes erreurs, dont j'ai conscience. Mais moi je sais que dans chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque vieillard, il y a un reflet de Dieu.
Tendance Confidence aujourd'hui avec l'archevêque de cette province de Normandie. Et vous habitez dans cette belle ville de Rouen et vous êtes aussi évêque de ce diocèse de Rouen. Vous êtes primat de Normandie. Nous vous retrouvons dans quelques instants avec vous. Nous allons aussi parler football puisque avant d'être évêque, vous avez aussi été arbitre de foot. Et nous en saurons un peu plus après cette respiration musicale sur la première radio régionale en Normandie, Tendance Ouest. Au cœur de la vie des diocèses, et plus particulièrement celui de Rouen aujourd'hui, en la personne de Mgr Dominique Lebrun. Vous êtes évêque de ce diocèse et en même temps archevêque de cette province ecclésiastique de Normandie. Précédemment, vous avez été arbitre de football, un lien entre la communion, qui est important d'établir dans une église, et puis également jouer ensemble sur un même terrain de foot.
Alors je vous vois venir. C'est-à-dire que l'essentiel de l'arbitre, c'est pas de sortir des cartons. On juge même des fois l'arbitre, et en tout cas c'était mon cas quand j'arbitrais. Moins je sortais de cartons, et plus j'avais l'impression d'avoir réussi mon match. Alors, dans les similitudes, premièrement, c'est vous avez quelque chose à réussir. Deuxièmement, ce n'est pas un championnat que vous avez à gagner, c'est à chaque instant, à chaque match, à chaque rencontre que vous avez à gagner. Mais d'une certaine mesure, vous repartez à zéro. Quand on est arbitre, ce qui compte, c'est que ce match-là se passe bien, et puis le suivant. Mais s'il y en a un qui s'est mal passé, c'est pas pour ça que le suivant se passera mal. Alors que quand on voit une équipe qui descend, qui est relégable, au bout d'un moment, c'est fini. Ce qui est aussi très semblable, c'est que l'arbitre est fondamentalement un homme seul, mais qu'en même temps, il est en équipe. Alors, je connais mieux l'arbitre de football. Il est en équipe avec plusieurs cercles. C'est-à-dire qu'il a son équipe d'arbitrage. Les 4 ou 5 arbitres, enfin ça dépend des règlements, ou des 3 arbitres, quand on est comme moi, j'étais un modeste arbitre de ligue.
Et tout comme un évêque a aussi son équipe, vous en avez parlé tout à l'heure, et il faut apprendre justement à les positionner sur ce terrain de l'église.
L'équipe, pour un évêque, c'est bien plus large que son équipe des personnes qui travaillent avec lui à la mission. C'est aussi en fait tous les habitants du territoire, tous les fidèles, mais tous les habitants. D'une certaine mesure, un vrai match de football, c'est comme j'en ai connu à Saint-Étienne. Vous avez l'équipe d'arbitrage, vous avez les équipes, et vous avez le public qui peut être un peu extérieur ou pas extérieur ou qui peut communier vraiment à ce qui se passe.
Quel est ce message que vous aimez adresser aux personnes avec qui vous travaillez et avec qui vous faites équipe?
J'ai beaucoup aimé ce que le pape François a dit souvent à des évêques. Eh bien, de temps en temps, vous êtes devant le troupeau, vous guidez, et il faut prendre les devants, il faut avoir des paroles courageuses, il faut soi-même commencer par prier, entraîner les autres dans la prière. Il faut de temps en temps être au milieu du troupeau et qu'il accepte de temps en temps d'être derrière le troupeau. C'est-à-dire d'être un peu fatigué, d'être aussi entraîné par son peuple dans la joie, dans la mission. L'évêque doit être dans ces trois positions.
Le sous-titre de cette émission diffusée sur Tendance Ouest que vous écoutez aussi à Rouen et dans tous ces diocèses que compose cette province de Normandie, que vous inspire ces deux mots-clés, cœur et vie? C'est le sous-titre de cette émission qui a pour titre principal Tendance Confidence.
C'est un très beau sous-titre parce que c'est l'âme des chrétiens, à la fois qui sont touchés dans leur cœur, profondément par l'amour de Dieu, par l'amour de des autres, et en même temps, ils sont dans la vie. C'est pas quelque chose d'intimiste, c'est notre cœur qui nous pousse à agir comme Jésus nous a appris à agir, pleinement dans le monde et engagé.
Répondre à un appel de Dieu, ce n'est pas simplement répondre à un téléphone, c'est tout autre, c'est pas le fruit de votre imagination, c'est une question qui a été posée par quelqu'un.
Pour moi, c'est une question qui m'a été posée par quelqu'un, en quelque sorte, par mon père, quand il est mort. La question, c'est cette question, où je vais? Quel est le sens de ma vie? Je sais maintenant que je suis fait pour aller le rejoindre. J'avais 13 ans. Je dirais que la résurrection est devenue quelque chose de tangible au niveau le plus profond de mon être, existentiel. Et donc, il a fallu que je dise quel est le sens de ma vie. Et précisément, en étant prêtre, c'était pour dire à mes amis ce qu'est la vraie vie.
Comment être assez audacieux, Mgr Dominique Lebrun? Comment parler de l'évangile dans le monde de ce temps, tout en respectant les souffrances et en tenant en même temps l'espérance qui anime chacun de ces visages rencontrés?
Nous avons à marcher avec tous, avec nous-mêmes, déjà avec nos propres souffrances, avec les souffrances de nos familles, de nos proches, avec au cœur cette espérance définitive que l'amour vaincra, que l'amour a déjà vaincu en Jésus et qu'il vaincra de toutes les manières, qu'il n'y a pas d'autre chemin que cet amour. Aller avec notre cœur dans la vie des hommes, c'est le sous-titre de votre émission.
Les projets pour cette province ecclésiastique dont vous êtes archevêque, Mgr Dominique Lebrun, et aussi les projets pastoraux pour votre diocèse qui est à Rouen.
Eh bien, nos projets, c'est comme vous l'avez dit, mettre en œuvre la mission. C'est-à-dire que chaque disciple ou chaque communauté, parce que ça n'existe pas un disciple de Jésus isolé, mais allant jusqu'à même la démarche personnelle, chaque communauté vive de la joie de l'Évangile et envie de communiquer aux autres la joie de l'Évangile. Je rêve presque chaque dimanche, en sortant de l'église, le chrétien se dise « Tiens, ce que j'ai entendu là, j'ai envie de le dire à telle personne avec qui j'ai parlé dans la semaine, avec mon voisin, avec mon collègue de travail, avec quelqu'un de la famille, ou mes enfants qui ne sont pas venus à la messe. J'ai envie de lui répéter telle parole de Jésus ou de lui partager l'expérience de communion que je viens de faire. »
Un mot d'espérance ou de joie à transmettre au cœur de notre société, qui traverse parfois des turbulences. Ce n'est pas toujours facile d'exprimer ce mot d'espérance ou ce mot de joie.
Je crois que le monde a besoin que nous durions dans la joie de la résurrection, c'est-à-dire de la vie qui est plus forte que la mort, c'est-à-dire de l'amour qui est plus fort que la haine, c'est-à-dire la victoire de l'amour sur la haine, mais que nous le fassions avec beaucoup d'humilité et que nous fassions le bon combat contre notre propre péché et non pas le combat contre des boucs émissaires.
Le mot paix, c'est un mot aussi que nous pouvons transmettre. Il est lourd de sens, y compris pour votre diocèse de Rouen, après cet assassinat du père Jacques Hamel.
Oui, le pardon, c'est un grand mot. Pour moi, je le vis comme un chemin. Il n'est pas immédiat et on tourne la page. La blessure est là. Pour moi, en tant qu'évêque, pour mes frères prêtres, pour la famille, les neveux et nièces, les sœurs et frères du père Jacques Hamel, mais aussi sa paroisse, sa dernière paroisse, mais aussi l'avant-dernière ou encore avant, qui ont été touchés profondément. Alors bien sûr, on peut penser à ceux qui ont commis, mais on se pose toujours la question, est-ce qu'ils l'ont commis seul? Et il y a ceux qui les ont encouragés, ceux qui les ont soutenus. Il y a leur famille, et nous faisons du chemin, nous rencontrons petit à petit ces personnes, ces communautés, nous faisons un chemin vraiment de purification pour vraiment dire non. Le seul à qui nous ne pouvons pas pardonner, c'est Satan, parce que c'est lui le seul auteur véritable du mal. Ce n'est surtout pas une communauté qui a une autre croyance que la nôtre. Nous voulons annoncer que Dieu aime chacun et tous.